Washington, la voix de l'Amérique, le monde aujourd'hui. Il est 19h30, temps universel. Dans quelques minutes, aujourd'hui l'Afrique centrale. Mais tout d'abord, un tour du monde de l'actualité.
Bonsoir à tous, au micro Raghida Kardosh pour ce bulletin d'information. À Bujumbura hier, les bailleurs de fonds du Burundi se sont engagés à lui fournir une aide de 170 millions de dollars, et ce pour surmonter la sécheresse et entamer le programme de reconstruction au sortir de 12 ans de guerre civile. Les Nations Unies indiquent que Robert McCarthy, un membre du personnel de l'UNICEF, a été enlevé aujourd'hui dans les environs d'Afmado, dans le sud de la Somalie. L'ONU œuvre de concert avec le gouvernement de transition de la Somalie pour assurer la remise en liberté de M. McCarthy. Au Nigeria, les militants qui avaient enlevé 9 travailleurs expatriés le mois dernier ont libéré l'un d'entre eux en présence de journalistes. Il s'agit de l'Américain Macon Hawkins, 69 ans, dont c'était l'anniversaire aujourd'hui. Pendant ce temps, la compagnie pétrolière Chevron a réduit sa production de 13 000 barils par jour en raison des dégâts occasionnés à un oléoduc dans le delta du Niger. Cette région a été récemment le théâtre d'attaques de militants ciblant les installations de compagnies pétrolières étrangères. Côte d'Ivoire, il faut davantage de dialogue pour sortir de l'impasse dans le processus de paix, ont déclaré hier les 5 principaux protagonistes dans le conflit ivoirien, et ce à l'issue de leur première rencontre sur le territoire ivoirien depuis que la rébellion a divisé le pays il y a plus de 3 ans. En Afrique du Sud, on a voté aujourd'hui pour les élections municipales. On s'attend à la victoire de l'ANC dans la plupart des circonscriptions, et ce malgré le mécontentement croissant face à la médiocrité de l'accès à certains services de base tels que l'électricité et l'assainissement. Vous écoutez La Voix de l'Amérique en direct de Washington. Le président Bush est arrivé à New Delhi pour sa première visite en Inde après avoir fait une brève escale surprise en Afghanistan. Les précisions de Timothée Donagmai.
Au cours de cette visite de 3 jours à New Delhi, les entretiens de M. Bush porteront essentiellement sur des questions économiques et militaires, mais aussi sur ce qu'il appelle un partenariat stratégique avec l'Inde. M. Bush va vraisemblablement tenter de sceller un accord en matière de technologie nucléaire civile. Il précise que cet accord n'est pas encore finalisé, de sorte qu'il ne sera peut-être pas signé cette semaine. Le président Bush dit aussi qu'il va exhorter l'Inde et le Pakistan à poursuivre le processus de paix et à trouver une solution durable aux différends sur le Cachemire. En début de journée, le président Bush se trouvait à Kaboul en Afghanistan, où il a déclaré
« Our commitment is firm. Our desire is to see this country flourish. »
Notre engagement est ferme, notre désir est de voir ce pays s'épanouir et devenir un exemple non seulement dans la région, mais dans le monde entier, a dit M. Bush. Les États-Unis ont bonne confiance que le terroriste Oussama Bin Laden sera traduit en justice, a ajouté M. Bush, soulignant que les États-Unis, l'Afghanistan et le Pakistan sont des partenaires dans l'Alliance pour combattre le terrorisme.
En Irak, des attentats à la bombe à Bagdad aujourd'hui ont fait au moins 26 morts et près de 60 blessés. Dans l'attentat le plus meurtrier, l'explosion d'une voiture piégée a tué au moins 23 personnes dans un quartier chiite du sud-est de Bagdad. Par ailleurs, des assaillants dans le nord du pays ont enlevé un nombre indéterminé de policiers après avoir attaqué un de leurs convois et tué au moins 2 personnes. Et le président déchu de l'Irak, Saddam Hussein, a reconnu avoir ordonné de traduire en justice des habitants chiites de Duger qui devaient par la suite être exécutés après avoir tenté de l'assassiner. Saddam est accusé d'avoir ordonné le meurtre de plus de 140 villageois, dont des enfants, dans la ville de Duger en 1982. Les États-Unis ont contraint à retarder le vote à l'Assemblée générale de l'ONU sur la création d'un Conseil des droits de l'homme. L'ambassadeur américain exige un renforcement de ce nouvel organe. Michel Joseph.
Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Jan Eliasson, avait dit lundi qu'il espérait que les démarches pour la création d'un Conseil des droits de l'homme pourraient être terminées d'ici la fin de la semaine. Mais mardi, M. Eliasson a reconnu que les objections soulevées par les États-Unis à son projet de résolution avaient contraint à reporter le vote. En septembre dernier, lors du sommet de l'ONU, il avait été décidé de créer un nouvel organe pour remplacer la Commission des droits de l'homme, organe discrédité. Au cours de ces dernières années, des pays comme Cuba, le Zimbabwe, le Soudan et la Libye, des pays connus pour leurs violations des droits de l'homme, avaient été membres de cette commission. Dans la première proposition soumise au secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, il faudrait obtenir plus de 2/3 des voix des 191 pays membres des Nations Unies pour pouvoir siéger à ce nouveau Conseil. Mais, en raison des objections soulevées par des dizaines de pays, les critères d'admission ont été modifiés et désormais il suffirait d'un vote à la majorité simple membre de ce Conseil. L'ambassadeur américain John Bolton se plaint que l'on ait baissé la barre et il se demande pourquoi ne pas continuer à se battre plus longtemps pour parvenir à de réelles réformes. Jan Eliasson espère qu'un vote sur ce nouveau Conseil pourra intervenir avant la prochaine session de la Commission onusienne des droits de l'homme, prévue pour s'ouvrir le 13 mars.
Ici Washington, la voix de l'Amérique, et tout de suite, aujourd'hui l'Afrique centrale, présentée par Lamia Gritley. Bonsoir Lamia.
Bonsoir Ragida. Et bonsoir l'Afrique centrale. Au sommaire de cette édition du 1er mars, les conclusions de la conférence de Paris sur les financements innovants qui relance l'idée d'une taxe sur les billets d'avion pour aider les pays du Sud. Au Gabon, le Conseil national de la communication a interdit l'accès aux sites internet pornographiques ou subversifs. Vous entendrez la réaction de l'opposant Daniel Mangara du BTP Gabon Nouveau. Et puis la Fédération internationale des digues des droits de l'homme préoccupée par l'insécurité en Centrafrique. Fin de la conférence de Paris sur les financements innovants du développement qui a réuni jusqu'à aujourd'hui des représentants d'une centaine de pays du Nord et du Sud. Paris, vous le savez, a tenté au cours de cette rencontre de rallier d'autres États à son projet de taxe sur les billets d'avion. L'objectif de cette initiative est d'aider les pays pauvres à lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le bilan de la conférence avec Denis Simoneau, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
La conférence de Paris donc vient de se terminer. Le ministre des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy, a tenu avec son homologue brésilien une conférence de clôture, puis une conférence de presse qui a permis de constater donc que cette initiative qui avait été lancée, il faut le rappeler, par les deux présidents, brésilien et français, prend maintenant un aspect concret avec le soutien d'un certain nombre de pays à la décision de prélever sur les billets d'avion une certaine somme pour alimenter un fonds qui servirait donc à acheter des médicaments pour lutter contre un certain nombre de pandémies.
Comme par exemple le sida.
Tout à fait, sida, tuberculose et d'autres maladies. Et donc les deux ministres ont pu constater à l'issue de cette réunion de deux jours qui s'est tenue à Paris que plus d'une centaine de pays avaient participé à la conférence, ça c'est déjà important, qu'ensuite une quarantaine de pays avaient décidé de participer à un groupe pilote qui permettra donc de continuer la réflexion et les travaux sur les sources innovantes de financement, puisque je vous rappelle que l'objectif de la conférence était aussi non seulement de regarder ce que l'on pouvait faire sur le prélèvement concernant les billets d'avion, mais de regarder d'autres sources de financement. C'était
oui.
aussi l'objectif. Plus de 40 pays se sont ralliés à ce groupe pilote. Et surtout, s'agissant donc du prélèvement sur les billets d'avion, vous avez maintenant 13 pays qui se sont engagés. Et ça nous paraît un très bon début parmi ces pays à retenir le Brésil, le Chili, le Congo, la Côte d'Ivoire. S'agissant de l'Europe, la France, le Luxembourg, la Norvège. Et donc vous avez quand même un certain nombre d'engagements très concrets qui ont déjà été pris.
Mais deux grosses pointures, par exemple les États-Unis et le Canada, vous le savez, sont hostiles à ce type de projet, de mécanisme. Est-ce que cela ne risque pas de nuire à ce projet ou de reporter les délais de sa mise en application?
Je ne crois pas, parce que on n'était pas surpris par le fait que les États-Unis et le Canada avaient une attitude assez critique. Je ne dirais pas hostile, je dirais critique. Ils étaient observateurs à cette réunion et ils se posent un certain nombre de questions qui font qu'aujourd'hui ils n'ont pas adhéré effectivement à l'initiative en tant que telle, mais en même temps cette cette réflexion progresse. Je vous rappelle que vous aviez présent à cette conférence le secrétaire général des Nations Unies, le président de l'Union africaine et encore une fois plus d'une centaine de pays qui étaient là et qui ont discuté de ces sujets, plusieurs organisations non gouvernementales également. Et le plus important, je dirais, c'est que la réflexion qui était considérée comme très préliminaire il y a encore 2 ans rentre maintenant dans le vif du sujet, dans le concret. Et je crois que pour une initiative de ce type, c'est un délai qui est très bref et qui permet de considérer que c'est un grand succès que d'avoir engagé une réflexion concrète aussi rapidement.
Et vous parliez à l'instant du président de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville. Lui, il a proposé d'autres idées de financement du développement, par exemple la taxation sur les armes de guerre ou sur les transactions financières internationales. Est-ce que ça a été retenu ou est-ce que ça pourrait voir le jour?
Ce sont effectivement des idées qui ont été discutées pendant la conférence, comme je vous l'indiquais précédemment, donc transactions financières, vente d'armement, initiatives prises par les collectivités territoriales, par exemple sur l'eau ou sur des services qui contribueraient également à cet effort, contributions volontaires de particuliers ou d'entreprises. Bref, plusieurs idées ont été débattues dans le cadre de différents ateliers de travail. Et c'est maintenant au groupe pilote, justement, d'organiser la réflexion autour de tous ces sujets pour continuer à les approfondir et, si possible, à les mettre en œuvre le plus rapidement possible.
Denis Simoneau, je rappelle que vous êtes porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Vous nous parliez de Paris. Merci pour ces précisions.
Je vous en prie.
Et parlons d'aide aux pays du Sud. Les bailleurs de fonds réunis hier à Bujumbura, la capitale burundaise, ont promis 170 millions de dollars d'aide à ce pays pour son programme d'urgence 2006. Dans sa conférence de presse, la vice-présidente Alice Nzomukunda a dit que le Burundi a reçu davantage d'aide qu'il n'en avait demandé. Les principaux donateurs sont l'Union européenne, la Banque mondiale, les États-Unis, les Pays-Bas, la France et le Japon. Et cette aide contribuera à financer la reconstruction des écoles, l'accès aux soins de santé de base et à nourrir 1,5 million de personnes. Certains de ces fonds seront également affectés à la réinsertion des personnes déplacées par la guerre civile. Nous reviendrons sur ce dossier dans nos prochaines éditions.
Aujourd'hui, l'Afrique centrale en FM au Burundi, 93.7 à Bujumbura, 107.1 à l'intérieur du pays sur les ondes de la radio publique africaine.
Et aujourd'hui, l'Afrique centrale, c'est l'émission de référence de la Voix de l'Amérique pour l'Afrique des Grands Lacs et toute la sous-région. Elle se poursuit, Lamia Gritli avec vous. Direction Libreville, le Conseil national de la communication a appelé tous les fournisseurs d'accès Internet à prendre les mesures nécessaires pour interdire aux usagers de surfer sur les sites web pornographiques ou subversifs. Le CNC, dont le président n'était pas disponible ce soir pour une interview, cite notamment le site internet Lomamba, armée gabonaise de libération nationale, qui se présente comme la branche armée du mouvement Bongo doit partir, le BDP Gabon, nouveau mouvement créé ici aux États-Unis. Écoutez la réaction de son président Daniel Mangara, je l'ai contacté au New Jersey.
Ben, la réaction, elle est simple, hein. C'est tout simplement, encore une fois, une confirmation de la dictature montante au Gabon. On ne voit pas du tout l'intérêt qu'aurait un gouvernement qui se dit démocratique, justement, à interdire des sites qui défendent des idéaux de progrès pour le Gabon. Là encore, pour nous, c'est un signe que le régime Bongo n'est pas prêt à changer.
Des idéaux de progrès ou de renouveau, comme vous dites, mais votre branche armée, le Momba, et même votre mouvement, comme vous le dites sur votre site internet, a abandonné l'idéologie du combat purement politique, et je vous cite, par des moyens purement politiques et pacifistes, et décide de se transformer en un mouvement clandestin de résistance nationale dont le plan d'action va être d'organiser au Gabon à court assurer à moyen et long terme un état d'insurrection permanente par tous les moyens possibles, donc militaires et paramilitaires. Et c'est la crainte du gouvernement, c'est pour ça qu'il accuse des sites comme le vôtre de terrorisme ou d'appel au terrorisme.
Oui, mais vous savez qu'à toute action, on pourrait dire clandestine ou violente, n'est-ce pas, on peut trouver des solutions politiques. Notre décision justement d'adopter la lutte insurrectionnelle part tout simplement de l'observation que depuis 15 ans au Gabon, on n'a pas vu de mouvement vers la démocratisation. Au contraire, depuis 1990, le régime Bongo n'a fait que grignoter les quelques petites libertés que les Gabonais avaient pu acquérir au cours des années. Et aujourd'hui, je crois que la situation du Gabon est pire en fait qu'en 1990. Et c'est cela que nous combattons. Et en fait, pour nous, il ne faut pas en fait rejeter, si vous voulez, la faute de cette situation sur notre mouvement. Il va sans dire que si demain le régime Bongo adoptait les points de réforme que nous avons toujours défendus au niveau de notre mouvement, la lutte armée s'arrêtera immédiatement. Et voilà pourquoi nous voyons cette équation comme une équation très simple. Si effectivement le régime Bongo ne change pas, c'est qu'il aura voulu tout simplement plonger le Gabon dans la guerre civile de par son refus de démocratiser les institutions de la République.
Oui, mais vous pensez que appeler à la destruction des bâtiments publics ou agresser ou éliminer les Français au Gabon ou donc s'attaquer au gouvernement gabonais est l'alternative à la politique du président Bongo que vous déplorez ?
Nous n'avons jamais recommandé, par exemple, de s'attaquer aux Français. En général, le BDP pense que nous ne pouvons en réalité toucher à aucun étranger au Gabon. Et ça a toujours été notre position. Le combat va concerner uniquement le régime Bongo.
Et donc vous allez continuer à diffuser votre idéologie via votre site internet ?
Effectivement, c'est une idéologie, je crois, qui est valable. Le Gabon, aujourd'hui, a besoin de changer. Ça fera 45 ans d'un régime qui n'a en réalité apporté au pays que la misère. Les statistiques sur le Gabon sont en réalité catastrophiques. Pour un pays d'un million d'habitants, avec autant de richesses que notre pays, il est scandaleux que nous ayons un taux de pauvreté égal à celui du Nigeria, un pays un trois fois plus pauvre que le Gabon. Ça n'a aucun sens. Et voilà pourquoi nous sommes plus ou moins déterminés à mener cette insurrection. Pas dans un sens terroriste, parce que pour nous, c'est d'abord avant tout un combat de libération nationale.
Mais monsieur Mangara, cette lutte, ce combat que vous évoquez, demeure après tout virtuel.
Oui, c'est ce qu'on dit, mais en réalité, tout combat commence toujours de manière virtuelle, parce qu'il faut d'abord délimiter la nature du combat, n'est-ce pas ? Mais il va sans dire que du moment que nous nous mettons dans cette philosophie, nous organisons pour cela. On partira donc un jour de la virtualité à quelque chose de plus concret, et ce n'est qu'une question de temps.
Merci beaucoup, Daniel Mangara. Je rappelle que vous êtes président du mouvement BDP Gabon Nouveau. Bongo doit partir. Merci pour ces précisions.
Je vous remercie.
La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et son affiliée, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, sont préoccupées par l'insécurité qui règne au nord et nord-ouest de la République centrafricaine. La population civile est victime des attaques des bandes armées ou coupeurs de route, mais aussi des violentes contre-offensives menées par les forces gouvernementales en violation du droit international. D'autres précisions avec Benoît van der Merschen, secrétaire général de la FIDH. Je l'ai contacté à Bruxelles.
Il y a plusieurs éléments qui jouent évidemment. Il y a tout d'abord un contexte global. C'est clair que les voisins, en tout cas les voisins directs d'en bas de la Centrafrique, entrent dans une zone de turbulence puisque des élections devraient avoir lieu dans les prochaines semaines et qu'elles risquent de faire des mécontents. Donc il y a déjà quelque part des troubles qui se fomentent, ce n'est guère surprenant. Ensuite, si vous allez voir de l'autre côté au nord, le Tchad est un pays qui est aussi terriblement déstabilisé à la fois par la crise du Darfour et aussi par sans doute un état de santé fragile et beaucoup de supputations sur l'état du président tchadien. Et je pense aussi qu'on ne peut pas non plus oublier d'où on vient clairement en Centrafrique où la situation a été explosive, violente, malheureusement sans doute tous les abcès non percés.
Mais qu'en est-il alors, monsieur van der Merschen, des fameux coupeurs de route de ces bandes armées qui opèrent dans cette région de la Centrafrique ?
On se retrouve dans une situation où vous avez beaucoup de monde qui s'est retrouvé manipulé, embrigadé dans énormément de milices et qui par après, effectivement, à la fois sont peut-être désœuvrés, ont peur de voir leur voir peut-être leur capacité de contrainte diminuer et qui après effectivement se recyclent en bandits de grand chemin. Néanmoins, cette question de l'insécurité généralisée qu'il appartient à l'État de juguler, permet aussi peut-être de prendre des mesures de type répressif qui légitiment un régime fort.
Il y a eu justement récemment des affrontements entre ces bandes armées et les forces centrafricaines et même le gouvernement Bozizé a été critiqué pour ça.
Oui, tout à fait. Je pense effectivement que à partir du moment où il y a dans les tâches publiques une mission de faire respecter l'ordre public, il faut faire évidemment en respectant un cadre légal, les conventions internationales en matière de protection des droits de l'homme. Et c'est là où on peut effectivement parfois s'inquiéter d'une disproportion de réaction, même si effectivement l'insécurité est à juguler. Vous savez, au-delà de la situation centrafricaine, ce qui fait aussi un petit peu peur, c'est que nous nous trouvons là face à une situation de déstabilisation qui peut jouer aussi malheureusement sur la République démocratique du Congo voisine. Et n'oublions pas quelle a été l'incidence, l'implication des hommes du vice-président Bemba dans la situation en Centrafrique il y a peu de temps, qu'il n'y ait pas un retour de manivelle, c'est ce que l'on peut souhaiter.
Le déploiement, il y a près de 6 mois, des soldats de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ne permet-il pas de régler cette question de l'insécurité dans le nord de la Centrafrique ?
Ce qui a été mis en œuvre, clairement, puisque l'insécurité est là, produit des résultats décevants. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire à cet égard de mettre en cause spécialement une intervention purement africaine. Je pense que l'exemple de la MONUC en République démocratique du Congo suffit à démontrer que quel que soit le caractère multinational ou non d'une force internationale, ça la reste compliqué. Je pense qu'il y a avant tout une volonté politique à avoir, d'identification des fauteurs de troubles, et là, dans un cadre de respect des droits de l'homme, une action sévère, mais il faut une volonté politique pour agir. Et est-ce que pour autant le mandat est aussi clair que cela? Visiblement non, puisque les choses cafouillent encore maintenant.
Votre organisation et son affilié, donc la LCDH à Bangui, vous dites que donc la situation en République centrafricaine a été portée devant le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI. Qu'en est-il, monsieur Van der Marchen?
Eh oui, effectivement, dans le cadre d'un dossier que nous avions sorti sur la République centrafricaine après 2 missions sur place, effectivement, nous avions saisi, comme ils peuvent le faire les ONG, le procureur de la Cour pénale internationale. Malheureusement, cette saisine n'a pas été suivie des effets que nous aurions pu attendre. Il est clair que la Cour pénale internationale est une juridiction jeune qui doit faire ses preuves, qui ne peut pas, vu ses moyens, s'occuper de l'ensemble des dossiers qui lui sont donnés. Elle doit donc prioriser ici. Clairement, on peut regretter que la République centrafricaine n'ait pas fait l'objet de plus d'attention, surtout vu les connexions que nous avions relevées avec la situation en République démocratique du Congo. Vous savez, il est impossible de rebâtir quelque chose de stable, de démocratique, un cadre d'état de droit, si on bâtit tout ça sur l'impunité.
Benoît Van der Merschen, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la FIDH et vous nous parliez de Bruxelles. Merci pour cet éclairage.
C'est avec plaisir.
Aujourd'hui, l'Afrique centrale, c'est aussi l'actualité sportive. Le point avec Timothée Donangmaï.
Ouvrons cette page des sports par les matchs de préparation du Mondial 2006 qui se multiplient à une centaine de jours du coup d'envoi. À Séoul, l'Angola s'est inclinée par 0-1 devant la Corée du Sud. Les Angolais ont évolué sans leur milieu de terrain Figueiredo. À Téhéran, l'Iran a eu raison du Costa Rica 3-2. Les internationaux iraniens ont vu leur morale boostée par le chef de l'État iranien. Vous pouvez être l'équipe surprise de la Coupe du Monde 2006 et accéder au second tour de ce tournoi, leur a dit le président Mahmoud Ahmadinejad. Ce soir, la Côte d'Ivoire joue contre l'Espagne, la Tunisie contre la Serbie-Monténégro, le Ghana contre le Mexique, à suivre également Italie-Allemagne, France-Slovaquie et États-Unis-Pologne. Toujours en football, l'international camerounais de Barcelone, Samuel Eto'o, a reçu à Istanbul le trophée de meilleur athlète de l'année du quotidien turc Zaman. À cette occasion, Eto'o a appelé tous les fans du football à soutenir les efforts contre la violence et les insultes dans le monde du sport. victime d'insultes de la part des supporters adverses lors du récent match Barcelone-Real-Zaragoza. Eto'o avait décidé de quitter la pelouse en signe de protestation. C'est sur l'insistance de ses coéquipiers et de l'arbitre qu'il acceptera finalement de terminer la partie. Tennis masculin, le numéro 1 mondial Roger Federer a défait le Koweïtien Mohamed Al-Gharib en 2-7 pour accéder en quart de finale de l'Open de Dubaï. Son prochain adversaire, le Tchèque Robin Vick, victorieux par 2-7 à 1 d'un autre Tchèque, Thomas Berdych. Manque de réussite pour le Russe Marat Safin qui a perdu son match du second tour face au Belge Olivier Rokus, 0-7 contre 2. Rokus croisera le fer avec un autre Russe, Mikhail Yuzny. En quart de finale, une enveloppe de plus de $187 000 attend le vainqueur de ce tournoi. Enfin, Pete Sampras, retraité depuis 2002, va reprendre la compétition en disputant au mois de juillet le World Team Tennis Pro Tour. C'est ce qu'a annoncé hier à New York cet organisme présidé par l'ancienne championne américaine Billie Jean King. Créé en 1974, le World Team Tennis Pro met aux prises 12 équipes représentant chacune une ville américaine et qui sont composées de 2 hommes, 2 femmes et d'un entraîneur. Parmi les anciens participants à cette compétition, Bjorn Borg, Jimmy Connors, John McEnroe, côté homme et côté dame, Chris Evert, ainsi que Martina Navratilova.
Merci Tim, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, le temps de vous lire, chers auditeurs. Merci de vos commentaires et salutations sur fr@voanews.com. Jean Kinkacha de Kinshasa en RDC écrit « Bonjour à toute l'équipe de la VOA, le peuple congolais demande au président de la CEI, la commission électorale indépendante, M. l'abbé Malumalu, de réouvrir les bureaux d'enrôlement des électeurs afin de permettre aux Congolais qui n'ont pas pu s'inscrire de le faire, car le Congo appartient à tous. La population de la RDC souhaite que les élections puissent se dérouler dans une transparence sans exclusion. La communauté internationale est celle qui paye la facture et non Malumalu. Jean Kinkacha de Kinshasa. Et puis ce email qui nous parvient de Goma, toujours la RDC, par Pascas Di Chichikaye. On parle un peu trop du plan humanitaire des Nations Unies arrêté en Belgique pour la RDC. Qui profitera de ce plan? Qui en est le premier bienfaiteur? Car nous sommes bénéficiaires, car nous sommes obligés de regagner notre pays avec nos propres moyens, le rapatriement, et sommes abandonnés à nous-mêmes. Aucune organisation ne s'occupe de ces rapatriés à Goma. Même l'UNICEF ne nous facilite pas la scolarité de nos enfants. Aucune structure n'est en place à ma connaissance. Merci pour cette intervention, Pascal Di Chichikaye de Goma RDC. Et on termine sur ce email qui nous parvient du Rwanda. Martin Mudumira, mieux vaut tard que jamais, je vous transmets mes meilleurs voeux pour l'année 2006. J'habite à Bukavu, où je vous capte sur 90.5, la fréquence de Raga FM. Cependant, je sollicite le calendrier, de recevoir le calendrier et d'autres cadeaux de votre station que j'aime beaucoup. Merci de votre fidélité, Martin, et la commission sera faite à la personne qui s'occupe de vous envoyer le calendrier. Et pour vous faire plaisir, on termine avec MC Solar et son Hijo de África. Ayo
Ayo, je sais pas si tu connais le Kwasa Kwasa, Zaiko Langalanga, la Rumba, ou le Makosa, le Mbala, la Koa, le son du balafon qui fait bouger Bamako, Djamena ou le Gabon, terre d'Afrique, du lapel, le Mandin, Maasai, terre aussi des fois pas dingue, le Sai Sai, Tassai, et je croque, bâton manioc, en piro, jouais les côtes ancestrales et demain le garde-robe. Sur la plage, on a fumé le capitaine, vu le jus de tamarin dans une coupe en ébène. Il faut des sous pour le développement, il faut développer les flux pour lutter contre le sous-développement. Ayo, il y a des idéaux, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Ayo, nouvelle idée, charité d'un alabama. Et voir l'œil du griot lorsqu'il te raconte l'histoire. Les danses de village lors de la cérémonie. Avec les initiatives qui viennent de mal infini. Lac, fleuve, Nil, Niger ou le Victoria.
à la ville de Pretoria.
Ne m'appelez pas Bamboula ou Tête de Crâne ou la star sans le civilisateur avec l'œil persan. Il y a des idéaux, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos.
Aïe, l'Afrique centrale, la Migritli vous dit à demain matin. Merci à Michel Joseph et à Wagner Roberts qui est à la technique. Merci à eux. À demain. Ciao, ciao.